sommes le lundi 25 septembre 2023. Il sonne 11h et nous sommes heureux de vous accueillir à ce club de la presse. Lundi 25 septembre, journée mondiale des pharmaciens, l'occasion pour nous de saluer toutes les pharmaciennes et tous les pharmaciens à travers leur président, Dr Niassenou. Mais le 25 septembre 2023, c'est également le jour de rentrée scolaire pour les près de 3 millions d'écoliers et d'élèves du préscolaire en classe terminale au Togo. L'occasion pour nous de saluer également tout le monde qui tourne autour de l'enseignement, les élèves, les écoliers, les enseignants, le corps administratif, les autorités pédagogiques au plan national, les parents d'élèves que nous sommes, et également vous, les auditrices, auditeurs du Club La Presse, vous qui êtes connectés avec nous par Canal FM ici à Lomé, mais également par le biais de nombre de partenaires, Radio Lumière depuis Anéra, Radio La Paix à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Sama FM à Baga-Niamtougou, Radio Daoula Bassa, Radio Courtoisie à Dapan, mais également Radio Le Bénin et Benin Radio, d'autres applications par lesquelles vous êtes connectés avec nous un peu partout en Afrique, dans les Amériques, en Europe, en Asie, en Océanie, sur toutes les îles. Merci aux techniciens Vitogbe Koku Michel Tomega qui réalise cette émission, avec à ses côtés Kodjo Jero Dakucha qui met l'émission en ligne également pour vous. Émission que nous co-animons avec ici au studio Arim Yaou Tchanyaou, le directeur de La Nouvelle Opinion. Bonjour.
Sas, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonne semaine de travail à tous.
Merci.
Et à toutes.
Merci. Kodjovi Jean-Baptiste Atisso de Corps Diplomatique .tg.
News.tg.
Corps Diplomatique News.tg, oui.
Oui, bonjour Sas. Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent à travers le monde entier.
Merci. Je continue dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. J'atterris sur Komi Didier Assogba de
Togo Breaking News.
Bonjour.
Bonjour Sas, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bonjour à mes aînés en studio.
Et j'atterris vers celui dont le crâne brille comme les montagnes pelées de Sabina Natal. C'est Uriel Kakbala Enyang de Mega Info. Bonjour.
Bonjour Innocent Sassagao. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent de par le monde.
Merci. J'ai annoncé déjà un peu le menu. Nous allons parler de la rentrée scolaire 2023-2024 au Togo, telle que le gouvernement l'organise, mais également telle que les élèves sont retournés à l'école aujourd'hui. Comment également les parents d'élèves, aussi bien dans les écoles publiques que privées, comment tout ce beau monde-là prépare et appréhende cette année scolaire 2023-2024. Et puis, nous allons parler du Conseil national des patrons de presse qui sort d'une assemblée générale avec une nouvelle instance dirigeante. Et puis, nous allons revisiter les relations entre l'Afrique francophone et la France avec ce qu'on peut dire le président français Emmanuel Macron et la politique française quelque peu en difficulté en Afrique, dans les pays francophones. Et nous allons terminer par également un comportement dont nous nous plaignons, le mauvais accueil que nous réservent les services aussi bien publics que privés. Il y a une institution, un service, la SAFER, qui est consciente de la chose et qui veut corriger cette situation. Nous allons arriver juste que nous allons nous inviter à oser inventer l'avenir comme feu Thomas Sankara le disait à ses compatriotes. Eh bien, la pensée du jour, c'est « Osons inventer l'avenir », signé Thomas Sankara. Mes chers amis, Kakbala, Komi, Kodjovi et Arim Yaou, je voudrais que, avant même cette émission, nous nous tournions du côté Est et que nous exprimions notre compassion, notre solidarité à l'endroit des victimes, des blessés et des ayants droit de cet incendie qui a ravagé un entrepôt de carburant à Semekraké, c'est à la frontière Bénin-Nigeria, c'était le 23 septembre. Selon la chiffre officielle, il y a au moins 35 morts, brûlés, morts dans des conditions terribles, également des blessés. Et ce qu'on peut en tirer au-delà de la compassion, de la solidarité, c'est que les réseaux clandestins de carburant illicite demeurent mortellement dangereux, même si ces circuits font vivre de nombreuses personnes et rendent d'utiles services aux populations, comme l'avons vu la semaine passée, quand il y avait carburant dans les stations-service. C'est ces circuits de carburant illicite qui nous ont dépannés. Mais Didier Assogba, c'est un circuit qui reste très mortellement dangereux. La preuve, nous l'avons vu dernièrement à Sémé, Craqué au Bénin.
Oui, nous sommes tous dangereux que le circuit du carburant ou frelaté, comme nous avons l'habitude de l'appeler, est un circuit extrêmement dangereux. Dangereux dans le sens que le pétrole est hautement inflammable. Et donc une mauvaise gestion, donc un mauvais entreposage peut donner lieu à des incendies à tout moment, dès lors que le feu ou une bûchette de l'allumette traîne par là, ou même en cas de court-circuit dans la salle d'entreposage. Et donc justement, et c'est pour ça que c'est vrai que ici les autorités ont pris la mesure de combattre la vente de ce carburant, mais je crois qu'ailleurs au Bénin, là-bas, les autorités avaient décidé et ont décidé donc de réglementer le secteur de façon à ce que et l'entreposage et un certain nombre le circuit même de la vente de ce carburant soit réellement encadré et qu'on sache qui fait quoi, qui est entreposé où, pour éviter justement que ces drames n'arrivent. Donc je crois que ce qui est arrivé là va donner de nouvelles orientations aux autorités béninoises de voir comment est-ce que on pourrait mieux encadrer le secteur et mieux accompagner les acteurs de ce secteur là pour que ces drames ne se répètent pas, surtout que c'est pas tellement nombreux là-bas au niveau du Bénin. Et je crois que justement, si tu permets quelques secondes encore, on a même vu déjà des stations d'essence hautement sécurisées et tout ça qui avaient pris feu et tout ça. Donc ça va rester des accidents qui arrivent dans un secteur, comme je l'ai dit, le pétrole est hautement inflammable. Mais je pense que ce que nous avons vécu dernièrement chez nous ici nous conforte dans la conviction que, au lieu d'interdire systématiquement ce circuit-là, il vaudrait mieux peut-être accompagner les acteurs pour que dans des situations, des périodes de soudure par là, ces acteurs-là puissent sauver l'économie nationale.
Merci, commis encore un confrère que je choisis comme ça, au hasard. Harry Miaou, au Togo, le carburant illicite est décrété interdit et combattu avec toutes les opérations que nous connaissons, entonnoir par-ci, par-là, même si au sommet de l'État, on sait qu'il est difficile, voire impossible, d'arriver à la fin de ce circuit. La preuve, la semaine dernière, c'est les carburants illicites qui nous ont dépannés. Mais au Bénin, on reconnaît un peu le circuit, on essaie de le réglementer, et ce drame de Sémé a été l'occasion d'une solidarité, d'une compassion, disons, nationale. Les officiels ont dépêché leurs représentants pour aller compatir avec les victimes. On a vu même l'ancien président Thomas Yayi Boni se transporter sur les lieux. La police et la gendarmerie et également la justice lancent l'enquête pour découvrir les causes de ce drame. Voilà comment un circuit rend service atrocement combattu au Togo, officiellement combattu au Togo, même si les résultats ne sont pas toujours, mais un peu reconnu et en voie de réglementation au Bénin.
Oui, il faut vraiment dire que il y a toujours des choses qui nous viennent d'ailleurs. Vous voyez, quand vous prenez le système Zenidjan, le phénomène n'était pas au Togo. Oui. Zenidjan, quand on a commencé Zenidjan au Togo, c'était dans les années 90, si j'ai bon souvenir. Ouais, ouais. Et l'État avait d'ailleurs, à l'époque, les gens tentaient d'étouffer ou de tuer le bébé dans l'œuf. Mais finalement, le temps faisant, Zenidjan a été accepté et finalement est en train d'être réglementé. C'est de la même façon que le système Boudet est arrivé au Togo dans une époque que j'ignore un peu, Mais je sais que c'est toujours dans la fièvre du vent de la démocratie que Boudin aussi est arrivé dans notre pays. Vous voyez combien d'années, de dizaines d'années, l'État met à combattre ce système qui n'arrive jamais à être éradiqué. Ça veut dire que le temps permettra au gouvernement de voir comment aussi prendre les mesures pour réglementer. Mais en regardant le combat qu'on mène contre Boudin, et quand j'observe l'anarchie dans laquelle des stations d'essence s'installent dans nos quartiers,
oui,
j'ai bien peur. Il y a des stations d'essence dans ce Lomé qui sont collées à des maisons.
Directement
collées. C'est-à-dire
sans aucun espace.
Sans aucun espace, comme ce qui se fait dans d'autres pays. Je me suis posé plusieurs fois la question que mais les incidents comme celui dont on parle aujourd'hui, s'il advient qu'un jour de ces incidents arrive dans notre pays, je vous assure que ce serait l'hécatombe. Parce que dans des maisons tout entourées, vous voyez des stations d'essence. Et chaque fois que je passe, cela me vient à la tête. Je me dis, mais comment est-ce que ça se fait qu'on installe des stations collées à des maisons habitables? Et moi, tout le temps, je me dis, moi, je ne peux pas vivre ici. Je ne peux pas dormir ici. Parce que je me dis toujours que quelque chose devait être fait dans ce sens. Donc, autant qu'on combat Boudin, qu'on trouve la mesure aussi de mettre de l'espace, d'isoler l'installation des stations d'essence des maisons d'agglomération où les gens vivent. Parce que c'est un danger qui est pendant et que, quand nous le disons, peut-être les promoteurs de ces stations diront, voilà quelqu'un qui ne veut pas notre bonheur, mais autant le dire pour que prochainement on prenne des mesures.
Il y a quelques années, une station-service avait pris feu à Accra. Je ne sais pas si vous retrouvez
encore. À la suite d'une pluie.
Alors, ce que dit Harry Miaou, c'est pertinent. Espérons qu'au niveau de l'État, on s'assure des conditions d'optimale sécurité dans lesquelles les stations-service sont installées avec des contrôles que je présume réguliers. Mais, Kakbala, à côté, il y a également un comportement que nous adoptons. Quand il pleut, vous voyez que les stations-service sont inondées, sont envahies, principalement par des conducteurs de motos. Alors, vous imaginez un peu toutes ces motos qui s'agglutinent au sein de la station-service. Je ne le souhaite pas, mais si jamais il y avait une étincelle, tu imagines un peu la suite, Kakbala?
Non, ça s'appelle hospitaliser vis-à-vis hospitalité, vis-à-vis des usagers.
Oui,
de la
mais
route.
Avec quelles conséquences?
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et par rapport à ce que Tiania vient d'exprimer, vous savez, il n'y a pas que des maisons qui sont collées aux stations-service, ceux qui nous livrent le carburant. Il y a aussi les supermarchés. Vous allez voir que c'est très rare de trouver une station d'essence sans supermarché collé. Et dans ces supermarchés, on retrouve tout le monde. On retrouve les ministres, les journalistes. On retrouve tout le monde.
Les journalistes, dont deux que je rencontre souvent.
Tu es adepte.
Ça, c'est selon vos enquêtes.
Oui.
Le contrôle de l'installation des stations d'essence, ça relève de la compétence de la direction des hydrocarbures. Maintenant, il faut voir comment ça se passe avec le ministère de l'énergie. C'est là qu'il faut aller chercher la réponse. Sinon, ça, c'est clair, ce n'est pas aller chercher au ciel et revenir sur terre, non. Maintenant, par rapport au carburant que nous qualifions de, ou bien au commerce que nous qualifions d'illicite et qui nous rend service des fois lorsqu'il y a rupture, lorsqu'il y a retard dans la fourniture du carburant. Je pense bien que le Bénin ne chasse pas ces vendeurs-là. Hein. Le Bénin, comme vous l'avez dit, est en train de faire tout pour réglementer le commerce à travers ces gens-là. Mais aujourd'hui, l'incident, lorsqu'on dit ils ont mis une commission en place pour voir les origines, c'est rien. Quelle origine? C'est le feu. Quelle origine on va trouver? C'est pas un individu qui a tenu son allumette pour aller, mais on connaît le niveau de danger de ces liquides inflammables qui se trouvent avec nous. Les gens achètent même des bidons de carburant gardés dans les chambres pour que si on dit qu'il y a une rupture, il va utiliser. Moi, j'ai dit, dans ma voiture, je ne mettrai jamais 5 litres dans la voiture pour dire que s'il y a rupture en cours de route, je vais l'utiliser. Non. Je préfère stationner la voiture et continuer autrement. C'est très dangereux. Il va falloir que d'autres pays s'inspirent.
Un petit mot avec Kojovi aussi. Nous l'avons dit, le carburant illicite, Boudin, comme on l'appelle, il rend d'utile service à la population. De nombreuses personnes en vivent. Hein, ce carburant participe à l'économie de nos pays, mais non seulement il est dangereux, comme nous venons de le vivre à ses mains, mais également c'est un circuit qui cause d'énormes manques à gagner au circuit officiel de notre économie, au Togo, au Bénin et surtout au Nigeria, où on voit le président Tinubu s'en plaindre et partir en guerre contre. Kodjovi.
Oui, je crois que ça crée d'énormes manques à gagner, mais vous savez, nos États n'ont pas toujours les moyens d'employer tous les citoyens. Et donc, il y a une part de la société aussi qui a besoin de moyens de ressources, d'activités génératives de revenus. Et c'est justement en cette quête de pitance que les gens sont obligés aussi parfois d'aller se consacrer à ce commerce qui n'est pas sans danger, comme on vient de le voir à ses mains, malheureusement. Mais c'est que l'essentiel qu'il y a à faire dans nos pays, c'est que le combat est bon, mais vous savez, comme je l'ai dit tantôt, c'est que aujourd'hui, avec le chômage qu'il y a dans beaucoup de pays, africains notamment, et c'est aussi une porte d'échappatoire pour ceux qui s'adonnent à ce commerce. Et il est bien vrai, ça cause beaucoup de dégâts matériels et humains. Donc ce qui a lieu de faire, c'est de réglementer et d'être beaucoup, ceux qui s'adonnent à cela doivent prendre beaucoup de précautions pour ne pas être victimes de la situation pareille que nous venons de voir au Bénin. Donc c'est ça ce qui est essentiel, sinon on ne peut pas l'interdire, puisque le Togo qui fait ce combat là depuis belle lurette, ce combat n'aboutit jamais, et la preuve, il y a une semaine, ce sont ces gens là qui nous ont sauvés. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut conseiller à ceux qui s'adonnent à ce commerce, c'est d'être vigilant, d'être prudent et de prendre beaucoup de précautions pour que des déconvenus n'arrivent pas.
Merci. Le carburant est très stratégique. Et hier, en France, dans son interview qu'il a accordée à des médias français, le président français est revenu, Emmanuel Macron est revenu, entre autres, sur les prix des carburants, qu'il faut stabiliser et permettre aux bourses les moins nanties également de s'approvisionner pendant que la France s'achemine vers l'hiver. Donc les prix des carburants, les chaudières à gaz, Emmanuel Macron en a parlé hier à l'endroit de ses compatriotes. Gageons que nos chefs d'État également sont conscients du caractère stratégique du carburant, du gaz et autres dans notre économie, et qu'on va permettre que même ceux qui ont des motos puissent disposer de ce carburant-là à un prix pas trop prohibitif. Nous payons le super sans-plomb à 700 francs le litre, ce que nous trouvons déjà trop. Alors, avec l'espoir peut-être que le marché international et la politique nationale le permettront, qu'on revoie un peu et surtout, le carburant et le gaz de cuisine gaz, également.
Bien sûr, naturellement, parce sans transition, que le gaz là.
Je suis passé devant une école ce matin, j'ai écouté cette chanson qui m'a rajeuni de près de 50 ans. Les écoliers laborieux vont avec joie à leur ouvrage, mais les élèves sans courage partent des larmes dans les yeux. Point de suspension, voilà. C'est pour dire que l'école togolaise a réouvert ses portes depuis ce matin. Et vos journaux en parlent. Togo Matin qui écrit par exemple, rentrée scolaire, c'est aujourd'hui et pas demain. Et Togo Matin continue. Le système éducatif change et changera. En fait, Togo Matin n'a fait que reprendre un cocoroco comme la Doji, ministre en charge du secteur. Et comme Togo Matin l'écrit, l'objectif pour le gouvernement à travers cocoroco, c'est de permettre à l'école togolaise d'être davantage en phase avec les réalités et les défis de développement ici au Togo. Un entretien que Kokoroko a accordé à la TVT hier, d'assez longues minutes au cours desquelles il a expliqué la rentrée, et il est revenu sur ses 10 priorités. Autre journal, c'est Mega Info qui consacre deux articles. D'abord, Kakpala, tu écris que des tablettes numériques ont été mises à disposition. C'est pour soutenir la digitalisation de l'apprentissage en milieu scolaire. Voilà une priorité, pour ne pas dire une ambition que Cocoroco nourrit. L'autre visage, c'est également des véhicules, 24 véhicules pick-up qui sont mis à disposition en faveur de l'éducation. Même si Liberté nuance un peu, le confrère Liberté qui écrit « Dotation de véhicules pour les uns, rien pour les autres ». C'est vrai que quand on n'a que 24 véhicules pick-up, on ne peut pas en donner à tout le monde. Il faut commencer par certains, n'est-ce pas, Kakala?
Oui, vous savez, c'est le visage que nous avons de ce secteur de l'éducation sous l'ère Cocoroco. Il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, voire même 7 ans, 6 ans, c'était presque impossible de trouver de tel genre de choses dans le secteur de l'éducation. C'était considéré comme du luxe. L'enseignant, l'inspecteur, le directeur régional de l'éducation et tout, ils sont là pour travailler. Chacun se débrouille avec ses moyens. Aujourd'hui, quand même, on sent beaucoup d'innovation, des efforts. Mais nous ne l'oublions pas. Nous savons tous que ce sont des prêts. Ce sont des prêts et c'est le contribuable qui viendra régler tous ces montants.
D'où encore une fois l'utilisation judicieuse de tous ces véhicules et autres matériels informatiques.
Non seulement l'utilisation judicieuse de ces matériels, mais que ce matériel concerne aussi les hameaux les plus reculés. En réalité, c'est pour ces zones-là qu'on devrait avoir ces genres de voitures. Mais je ne suis pas sûr actuellement que, puisque c'est la deuxième fois qu'on achète des pick-up du genre pour le secteur de l'éducation, il faudrait quand même que la répartition soit objective.
Donc quelque part, tu rejoins un peu la préoccupation du confrère Liberté.
Tout à fait. Attirer un peu l'attention du ministre parce que ce qu'il fait, c'est bien, mais il faudrait que la répartition soit objective. Concernant la rentrée en elle-même, vous savez, aujourd'hui, c'est la rentrée. Tout le monde le sait. Toutes les dispositions, peut-être, ont été prises pour que les élèves, les apprenants reprennent les classes, pour que les enseignants reprennent les craies, les cahiers, les copies et autres. Mais il faudrait qu'on se rassure aussi que tous les problèmes qu'on a connus au cours de l'année précédente, des écoles qui étaient submergées par de l'eau, des écoles qui ont été fermées.
Justement, pour l'école inondée, la semaine passée, nous avons évoqué l'école du 13 janvier. Et ici à Lomé, et puis l'école de Zokalegman, toujours à Lomé. Et s'il y en a à Lomé, il doit y en avoir sûrement encore beaucoup à l'intérieur du pays.
Oui, tout à fait. Il faudrait qu'on se rassure que les écoles privées, les établissements privés qui absorbent plus d'apprenants que les publics sont dans de bonnes conditions.
Et s'il y a une comparaison pour se voir établi que les élèves des écoles privées sont plus nombreux que ceux qui fréquentent l'école officielle.
Il y a une comparaison, vous le savez très bien. Si vous prenez un périmètre de 2000 ou 3000 mètres carrés, vous trouverez peut-être 15 à 20 établissements privés contre un ou deux. Ça, il ne faut même pas.
Est-ce qu'il y a des statistiques officielles qui l'attestent?
Des statistiques, oui, bien sûr. Okay. Oui, bien sûr. On va peut-être mais regardez le nombre d'établissements privés déjà fermés. L'étendue du territoire. Mais projeter ce nombre-là pour relativiser par rapport aux établissements publics, il n'y a pas à comparer. Maintenant, il faudrait que l'État, ce que nous voulons dire, c'est l'accompagnement de l'État à ces établissements privés, laïcs, confessionnels. Tout ce qui est établi, ce sont des investissements des individus ou des personnes morales. Maintenant, il faudrait les accompagner. Au lieu de fermer comme ça, il faudrait prendre les dispositions. L'État peut octroyer des prêts aux propriétaires de ces établissements pour rentrer dans l'ordre et continuer par dispenser les cours pour les enfants. C'est pas fini. Il y a quelque chose de très important. Ils attendent. Il y a quelque chose de très important. Il faudrait aussi qu'on attire l'attention des autorités, des plus hautes autorités qui ont pris l'initiative de créer les lycées scientifiques. Est-ce que vous savez que les lycées scientifiques, ce sont les séries C uniquement? Ça, vous le savez. Et ne va pas dans une école scientifique, qu'elle soit à Lomé ou à Karan, qui veut. C'est les meilleurs et ils passent d'abord le concours. Je vous rappelle qu'actuellement, le concours que ces candidats ont passé
pour entamer l'année scolaire aujourd'hui, le concours, là, les résultats ne sont pas encore sortis.
Alors que la rentrée est effective depuis au moins 4 heures de temps.
Tout à fait. Les résultats ne sont pas encore sortis. Il faudrait aussi que l'autorité ait son œil. Il faudrait le ministre Kokoroko même ait son œil sur ces lycées scientifiques-là parce qu'il y a beaucoup de choses. Lorsqu'on proclame les résultats des concours, vous allez voir qu'on parle de parité genre. Ce qui fait que les garçons qui est meilleur à une fille, on préfère prendre une fille qui a moyenne de 12 contre un garçon qui a moyenne de 20. Parce qu'on veut faire la parité. Vous voyez, il faut que cette question soit sérieusement discutée.
C'est des aspects qu'il faut soulever, attirer l'attention. Mais pour revenir sur l'année dans un ensemble, excuse-moi, Kakpala, que je vis.
C'est l'année aussi.
Je ne sais pas si tu as pu suivre Kokoroko hier, mais elle est revenue sur les mesures que le gouvernement, à travers son ministère, a prises pour que cette année démarre sous de bons auspices, notamment ces 10 fameuses priorités.
Oui, ça, vous savez, au niveau ministériel, à chaque rentrée, je crois qu'il y a les décisions qui sont prises et qui sont annoncées officiellement par les ministres concernés. Mais le mal est que parfois les décisions sont annoncées au public, mais sur le terrain, toutes ces décisions ne prennent pas corps. La preuve, ce matin, moi, j'ai pris la peine de circuler dans un certain nombre d'établissements publics. Et le mal qui est, ou bien le manque criard qui a soulevé, c'est le manque de bancs, table bancs. Mm-hmm. Je me suis promené dans beaucoup d'établissements publics, au moins 3. Et ce matin, c'est le manque de bancs. Oui. Beaucoup d'élèves sont restés sans bancs, sans table bancs. Et à certains, les nouveaux qui sont à la porte de ces établissements, on leur demande de revenir demain après-midi ou bien mercredi après-midi pour pouvoir gérer en attendant le flux qui se trouve dans les établissements là. Donc c'est le lieu de rappeler aux autorités que bon, malgré le discours officiel, il faudrait qu'il y ait réellement un suivi pour voir réellement ce qui est dit sur les médias est une réalité sur le terrain. Sinon, réellement, il y a beaucoup de manque de
table. Voilà deux réalités sur lesquelles vous attirez l'attention. L'insuffisance de mobilier scolaire dans les écoles, le retard dans la proclamation des examens des concours pour l'adaptation scientifique, et également cette politique
d'équité gens qui ne sert à rien.
Qui ne sert à rien. Qu'il faut réapprécier.
Et justement, pour appuyer ce que le confrère disait à propos des concours pour le lycée scientifique, je crois que la disposition réglementaire, c'est que ce sont les élèves qui ont eu des notes de 14 en mathématiques en quatrième et en troisième. Ce sont eux qui passent généralement ces concours. Vous devez réunir au moins 14 de moyenne.
Disons les meilleurs. Ceux qui viennent
c'est
d'avoir
ça.
Le BPC.
C'est ça. Pas seulement les meilleurs, mais c'est qu'il faut avoir à partir de la carte de quatrième une note supérieure à 14
à partir de la quatrième déjà.
Bien sûr, quatrième, c'est-à-dire 14 en mathématiques et 14 en sciences physiques.
Actuellement, c'est le relevé du BPC.
Non, sinon, c'est bien avec ça,
il faudrait que... Ce qu'il faut souhaiter, c'est que ces résultats du concours soient proclamés au plus tôt.
Oui.
Et que également, éviter
le favorisme, surtout. C'est ça. Sinon, c'est ça qui... Parce qu'il y a certains barons qui vont demander à ce que leurs filles ou bien leurs enfants soient acceptés.
Pas de procès d'intention.
Non, vous savez ça, Sgaou.
Non, là.
Vous savez...
Souhaitons seulement... on proclame le résultat au plus tôt.
Au plus tôt.
Et qu'on réévalue ce problème-là de favoritisme. Veut les meilleurs, le meilleur ne doit pas avoir de sexe.
Oui, pas de sexe. Je ne parle pas de sexe nécessairement. Mais c'est que le problème qui fait bloquer parfois les concours, les résultats de ces concours, c'est qu'il y a des pesanteurs. Des pesanteurs qui font que ceux qui doivent proclamer à temps les résultats de ces concours sont... ne le font pas à temps parce que on doit avoir tel coup de fil, c'est ça qui change les données et finalement l'objectif visé,
tu l'as déjà dit, notre pays devient malheureusement coutumier du fait qu'on organise un concours dont on met des mois voire des années à programmer les résultats. voire même qu'on ne proclame même pas, et ce n'est pas bon. Ça porte préjudice au, disons, au postulant et à tout le pays. Espérons qu'on nous écoute.
Est-ce que vous savez
au-delà
que...
de ce studio. Oui, on va évoluer avec comme Didier. Voilà, l'année scolaire qui a déjà démarré depuis au moins 4 heures du temps, 4 heures et demie. Gokoroko est revenu sur les mesures qu'il a prises, en fait, que son ministère a prises, les 10 priorités. Mais à côté de l'école publique, les confrères a-t-il attention également sur l'attention que nous devons apporter aux écoles privées qui absorbent une grande quantité d'élèves. Alors, nous avons commencé à en parler avec les frais d'inscription, les frais d'écolage qui flambent également l'attention à attirer de la part des promoteurs de considérer autrement leur personnel administratif, leurs enseignants, avec toute la déontologie et l'éthique qui vont s'en suivre. Didier ?
Oui, je crois fondamentalement que l'essentiel est en train d'être fait. Mais si nous savons d'où nous venons, nous savons tous que pendant longtemps, on n'a pas travaillé dans pratiquement tous les secteurs du pays. On n'a pas eu à travailler. Et donc, sur ces dernières années, on essaie de rattraper notre retard qu'on a accusé dans ces secteurs-là. Ce n'est pas par rapport à un autre pays, mais par rapport aux défis auxquels nous faisons face. Nous reconnaissons que nous avons accusé de nombreux retards dans beaucoup de secteurs, et le secteur de l'éducation en fait partie. Jean-Baptiste parlait tout à l'heure de la problématique des tables bancs. Mm-hmm. Mais les tables bancs, il faut les mettre dans les salles de classe. On pourra rallonger la liste
des salles de classe insuffisantes, mais établissement même.
Établissement même preuve, d'abord.
Qu'on envisage d'en construire.
Justement, il a annoncé l'ouverture de nouveaux établissements cette année, ou la régularisation d'autres qui ont été créés généralement sur initiative des populations, eux-mêmes les écoles d'initiative locales et autres. Je pense que beaucoup vont être régularisés. Il y a le recrutement des enseignants qui est en train d'être fait régulièrement, même si il y a des concours concours notamment dont le résultat n'est pas encore sorti. Donc on espère que ça va aller. Mais de l'autre côté, il y a le secteur.
Il y a deux concours. Il y a le concours d'admission au lycée scientifique. Oui. Il y a également le concours de recrutement d'enseignants même.
D'enseignement, oui.
Dont les résultats ne sont pas encore proclamés.
Justement. Donc c'est de cela que je parle. Donc je pense fondamentalement que à côté de tout ça, de ces défis au niveau du public, il y a également le privé. Et comme Uriel le disait, il y a un fort contingent d'élèves togolais qui se trouvent aujourd'hui dans les écoles privées. C'est pour ça que depuis qu'il est arrivé à la tête du ministère, le ministre Kokoroko essaye toujours d'avoir des séances avec les promoteurs des écoles privées. Nous savons qu'il a envie d'assainir le secteur du privé pour savoir véritablement qui fait quoi pour que l'enseignement soit de qualité et que les élèves aient le même niveau une fois qu'ils sortent de ces écoles-là. Vous savez, à l'orée des vacances, une longue liste d'établissements déclarés clandestins avait été publiée.
Ne respectant pas les normes de l'éducation.
Justement, avait été publiée. Comme on avait compris à l'époque, la plupart ont vite fait de corriger les anomalies pour aller se régulariser. Jusqu'à quelques jours de la rentrée, il restait encore une centaine qui ne s'étaient pas encore régularisés. Donc on va voir peut-être dans ces semaines et tout ça, les tractations sont toujours en cours. Et au-delà de cela, il y a également la qualité de l'enseignement qui compte. Et donc généralement, depuis 3 ans au moins, on voit des enseignants du privé qui vont à des séminaires de remise à niveau, à des séminaires, on va dire, de brainstorming, de formation, pour qu'ils soient véritablement en mesure de tenir les classes de bout en bout. Avec l'introduction de l'anglais cette année, on annonce également la multiplication de ces séances-là, en même temps qu'on forme des élèves professeurs dans les, comment vous appelez, les écoles normales ou tout ça.
Les ZENI.
Il y a une nouvelle appellation maintenant pour les
écoles
pour
nationales de formation des élèves professeurs ou quelque chose comme ça, ou des professeurs d'école, voilà. Donc je pense que des efforts sont faits ici et là, et prions juste que la mayonnaise prenne pour que le secteur éducatif togolais déjà reconnu à l'international pour sa qualité, la qualité de l'enseignement au Togo, garde cette qualité-là, pas seulement qu'on garde, mais qu'on puisse l'améliorer, tant que qu'on soit du privé ou qu'on soit du public, quand l'élève togolais arrive à sortir ou à avoir un diplôme, qu'il ait un niveau acceptable, bien que nous, parents, nous nous plaignons depuis quelques temps.
Merci, merci. Arim Yaou, alors, les 10 priorités de Cocoroco, l'application de l'arrêté complétant la police des examens, 2, le recrutement d'une nouvelle promotion de l'élève professeur, 3, l'introduction de l'anglais au cours primaire, en phase pilote, et puis 4, une seconde, je perds un peu, mais... Ok, les 10 priorités. Et puis quand on l'a suivi hier, il a dit qu'il sait, enfin, qu'il veut continuer à manier aussi bien le bâton que la carotte. Oui. Sévir là où ça ne va pas, mais également encourager et motiver ceux qui doivent aller de l'avant.
Tout ce que je peux dire, c'est que la méthode Cocoroco, qui est aujourd'hui la méthode de tout le gouvernement, est une méthode qui, quoi qu'on dise, est en train de rassurer tous les Togolais.
Il n'est pas évident que ce que Cocoroco fait soit de mise dans tous les ministères.
Pas du tout. Par rapport à l'éducation.
Oui, okay.
Tout ce que Cocoroco fait est une méthode qui vient du gouvernement. C'est de la volonté du gouvernement que Cocoroco pose tous ces actes-là. Et donc, j'ai dit que ces actes rassurent pratiquement tous les Togolais avec ce que nous avons eu comme résultat la dernière fois et l'année passée, avec la stabilité que nous avons connue au niveau de l'éducation. Vous savez que hier, tout le monde sait ce qui se passe quand on commence une année comme celle-ci. C'est les grèves ci, c'est les grèves là, c'est des problèmes entre élèves et professeurs. C'est... Donc aujourd'hui, le calme est revenu dans le secteur de l'éducation, quoi qu'on dise. Mais je crois qu'on ne peut pas à 100% dire que tout est stable. C'est pour cela que Jean-Baptiste a relevé le manque de table banc. C'est pour cela que Uriel a relevé la lenteur au niveau de la proclamation des résultats, au niveau des écoles scientifiques. Mais je crois qu'on peut rattraper tout cela pour que ce que nous sommes en train de saluer et de vivre si bien puisse continuer. Mais je vais réagir par rapport au concours. Le concours, moi j'ai fait un peu la démarche près du ministère de la fonction publique. Et je vous assure que chaque fois qu'il y a concours au Togo, pour qu'on daigne chercher à prendre 100 personnes, c'est plus de 30 000 candidats qu'on retrouve. Oui. Et ce qui fait qu'on ne donne pas vite les résultats, c'est qu'on est en train de corriger les anciennes habitudes que chacun de nous a relevées ici. Mm-hmm. Ça veut dire que pour corriger 30 000 feuilles, par exemple, pour suivre ça de près, on ne peut pas dire qu'on a fini de corriger de façon sérieuse 30 000 feuilles ou 40 000 candidats, les feuilles de 40 000, et que dans un mois, on a fini l'opération. On est en train de faire en sorte qu'on prenne les meilleurs. De toutes les façons, j'ai cherché, j'ai appris que le chef de l'État personnellement a dit qu'il faut que les meilleurs gagnent, que l'heure où les gens qui ont des protégés, les gens qui ont des bras forts, des gens derrière eux, l'heure a sonné pour qu'on arrête de proclamer de ces
retards. Les fameuses interventions.
Intervention.
Le ministre même a reconnu que c'est de mise.
Ouais, le chef de l'État a dit que ça là c'est fini. Et c'est ce qui explique la lenteur dans le don des résultats parce qu'on est en train de faire du sérieux. À moins qu'on m'ait trompé, mais je suis allé au niveau du ministère, c'est ce qui m'a été dit. À l'heure où nous parlons, les gens sont activement en train de travailler.
Mais accélérer, Arim, il y a aussi non certains.
Non, je veux bien qu'on accélère.
D'avoir l'âge de la retraite.
Je veux bien qu'on accélère, mais je ne veux pas qu'on batte. C'est ce qu'on m'a dit.
Une seconde. Vous savez, c'est une précision pour vous montrer à quel point il y a des choses anormales. Vous savez, l'année dernière au bac 2, série C, étant donné que ces enfants ne font que la série C, c'est un élève de Chaminade qui est premier pour tout le Togo. Malgré les moyens mis à la disposition des élèves des écoles scientifiques, c'est celui de Chaminade qui a été premier. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le concours l'a laissé de côté, il est allé à Chaminade, c'est premier.
Ouais.
Mm-hmm. Élèves,
de tout le Togo.
De tout le Togo.
C'est ça.
Vous voyez qu'il y a un problème.
Vraiment.
Ce n'est pas parce que on a acheté des véhicules, on a fait ceci, ceci, cela. C'est le contribuable, les moyens mis à la disposition de ces élèves. Si on vous fait cas, c'est énorme.
Merci.
Donc il va falloir qu'on prenne
des dispositions. Merci beaucoup. C'est vrai que nous mettions trop de suspension et que nous allions, que nous revisions maintenant les relations entre l'Afrique et la France. On peut se dire sans se tromper, Afrique, France, je ne t'aime plus. Alors, revue de presse avec ce qu'a écrit Togo Matin, à savoir Robert Doucet, le ministre togolais des Affaires étrangères, qui a représenté le chef de l'État, qui a prononcé ce discours à la tribune des Nations Unies. C'était le 21 septembre, lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, où Togo Matin relève que Robert Doucet fait le constat d'un monde malade. Méga Info également écrit, Robert Doucet exprime les intentions de l'Afrique à la tribune des Nations Unies. Nouvelle Opinion écrit lui aussi, Robert Doucet réitère l'engagement de Faure Gnassingbé à préserver la paix, certes, mais pour liberté, liberté écrit plutôt, quand Robert Doucet se moque du peuple togolais et l'insulte à la tribune de l'ONU. C'est-à-dire que chacun a sa lecture du discours de Robert Doucet à la tribune des Nations Unies. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, je ne sais pas si vous avez écouté les adresses des ministres maliens, Abdoulaye Diop, et burkinabé, Bassolma Bazier, à la tribune des Nations Unies, où moi j'ai pu noter que les mots ont vraiment volé haut contre la politique de la France. Et puis hier, j'ai parlé tantôt de cette interview que Macron a accordée aux télévisions françaises. C'est une décision qui nous intéresse ici, c'est que Emmanuel Macron a annoncé hier que la France va ramener son ambassadeur Sylvain Ité, déclaré persona grata par les autorités militaires du Niger depuis près de 2 mois. Maintenant, Macron décide qu'il va ramener son ambassadeur. Et puis, ce n'est pas fini. Il a annoncé que la France va mettre fin à la coopération militaire avec le Niger. Alors que c'est les militaires nigériens qui demandent depuis de rompre ces accords. Et puis, ce qui est passé de façon sibylline, mais ce n'est pas anodin, pour réaliser tout cela, il va entreprendre des concertations avec les putschistes du Niger. Alors, quand je dis, finalement, Macron, non seulement vient de céder sur l'ambassadeur et la coopération militaire, mais avec les concertations qu'il va avoir avec Macron, avec les putschistes, il reconnaît finalement que au Niger, aujourd'hui, c'est les militaires qui tiennent le pouvoir.
Oui, je crois qu'il est finalement revenu, si on peut le dire, à de meilleurs sentiments, parce que
il est contraint.
Estimant au prime abord que ce qu'il appelait putschiste n'avait pas de légitimité dans le pays, et donc il voulait faire à sa tête, mais avec la détermination du peuple nigérien, aujourd'hui, je crois que c'est Emmanuel Macron qui fait machine arrière avec la décision de ramener au pays l'ambassadeur Ité, et surtout de faire en sorte que ces troupes, les 1500 militaires qui sont stationnés au Niger, puissent être rapatriés aussi
au plus tard
le 31 décembre. Donc, disant cela, je crois que déjà il a su que la pression au niveau de ces militaires-là porte ses fruits. Et allant même au-delà, aujourd'hui, selon les informations que nous, on a eues, c'est que le peuple nigérien, beaucoup de populations sont massées autour de
l'ambassade.
Non, pas l'ambassade, la base militaire. Et aussi pour contraindre ces militaires à quitter le pays. Et donc j'ai appris que on les empêche d'être ravitaillés. Donc ces militaires d'être ravitaillés, ça veut dire que même les 3 mois que décembre, on est à 3 mois.
Ah ok,
c'est ça qui reste à venir. Bon, c'est que peut-être la base militaire serait évacuer même avant ces 3 mois. Si la pression de la population nigérienne continue autour de cette base, je crois qu'ils seront obligés de dégarpir avant.
Beaucoup plus tôt.
C'est ça, par anticipation. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, Et comme l'a dit notre ministre des Affaires étrangères, je crois qu'on doit se traiter aujourd'hui, les États doivent se traiter avec beaucoup d'estime, pas plus de condescendance.
Et d'égard, de considération.
Parce que après la survenue le 26 juillet dernier de ce coup d'État, les propos que Emmanuel Macron avait tenus à l'égard des militaires qui étaient au pouvoir, c'était des propos très discourtois, et peu diplomatiques. Et donc aujourd'hui, il est en train de récolter les fruits de ces propos.
Et voilà, donc, c'est ça. Et Macron, surtout, Emmanuel Macron qui ravale sa parole. Hein, donc, le paternalisme arrogant, voire condescendant, qu'on lui reproche, il est en train de revenir, comme j'ai entendu le mot ici, à de meilleurs sentiments. Quand il veut ramener son ambassadeur, quand il veut mettre fin à la coopération militaire, ce que les militaires nigériens demandent depuis.
C'est ça.
Et avec le rappel du contingent français au Niger, ce qui va arriver rejoint déjà le Mali, qui a demandé d'abord que la France rapatrie l'opération Barkhane. Ensuite, le Mali a demandé et obtenu la fin de l'AMINUSMA, même des Nations Unies. Le Burkina même a renvoyé, bon, disons, c'est pas renvoyé, a demandé le rappel d'un coopérant militaire français. Ça veut dire que Ari Miaou, voilà une houle qui prend forme, qui risque de ne pas s'arrêter entre le Mali, le Niger et le Burkina.
Non, je crois que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui doit savoir anticiper. La politique, ce n'est pas forcément dans les discours, c'est de savoir lire entre les lignes, parce que nous, on n'est pas politiciens, mais nous savons également lire. J'ai dit à ce plateau, si vous avez souvenance, que je serai à la place de la France, je devrais anticiper et commencer par corriger beaucoup de choses qu'on me reproche dans d'autres pays.
Mais, mais le problème, c'est que tu as beau vouloir anticiper, mais il y a certains intérêts qui puissent
retenir. Écoutez, si j'ai des intérêts et que ça se passe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je dois pouvoir comprendre que ça peut se passer cinq fois ou six fois et anticiper et préserver le lot. C'est ce qu'il vient de faire avec le Niger. Il a fait un peu si tard. Ça va émousser et refroidir d'ailleurs l'ardeur des relations qu'il y avait entre la France et le Niger. Et je continue en disant que, à mon avis, aujourd'hui, ce qui se passe avec le Niger, mais la France a encore des cartes à jouer. Parce qu'aucun pays, les pays francophones, c'est-à-dire nos pays qui sont francophones, aucun ne nie la France, ne renie la France. On a toujours besoin, sur d'autres angles, d'avoir la coopération avec la France. On a besoin d'être avec tout le monde. Mais sauf qu'on a des choses qu'on reproche à la France, que la France peut corriger d'avance.
À certains aspects de la politique de la France, oui, à l'endroit de nos pays.
Oui, c'est ce que les gens veulent. Et donc la France peut appeler tous les pays qui parlent français à se retrouver, surtout africains, et à discuter ouvertement avec ces pays et à anticiper, à changer ce que les gens veulent. Ça ne tuera rien à la France, mais ça la fera davantage grandir, à mon avis.
Merci. Okay. Alors, comme Didier, rappel de l'ambassadeur Sylvain Itier, la fin de la coopération militaire avec le Mali.
Le Niger.
Avec le Niger, pardon, mais ce qui a été déjà fait avec le Mali. Et puis, il faut ajouter également qu'il y a quelques jours, la France a décidé de la suspension de délivrance de visas, aussi bien aux étudiants qu'aux acteurs culturels ressortissants de ces trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina.
Oui, je pense d'abord que sur le plan diplomatique même, et le rappel de l'ambassadeur, à se demander où est-ce que la France a mis ses amis. D'abord, on va parler de Mohamed Bazoum, que la France substituait à l'État nigérien, parce que on sait tous, et on a fait, pour ceux qui ont flirté un peu avec la diplomatie et ceux qui lisent un peu, on sait tous que les relations c'est de État à État, et non d'un État à un individu. Mais pendant longtemps, la France, chantre de la diplomatie, a dit que l'État nigérien était devenu Mohamed Bazoum, quoi. C'était
assez fait croire que.
Oui, oui.
Maintenant, la réalité l'a rattrapé.
C'était assez ahurissant. Aujourd'hui, il revient à l'évidence et il se rend compte que et là même les discussions même sont en cours depuis plusieurs semaines avec les militaires au pouvoir au Niger. C'est parce que la date même quand les militaires ont dénoncé les accords de coopération de défense et de sécurité, la date butoir pour partir du Niger était le 2 septembre.
C'est ça, ils ont donné un mois.
Donc les discussions ont commencé très tôt dans ce sens-là pour que à la date de conclusion le 2 septembre, ils ne se sentent pas contraints d'être délogés du Niger. Donc les pourparlers sont en cours depuis très longtemps. Et je pense que les militaires ont juste posé cet ultimatum pour que l'ambassadeur parte. Donc je pense que même si la France, qui pendant très longtemps a fait ce qu'elle a fait aux pays africains, je ne vais pas aller dans les détails de peur que des gens me collent des noms, moi je ne suis pas quelqu'un, je fais des analyses. Donc au vu de tout ce qu'elle a fait aux Africains et qu'elle est en train de récolter aujourd'hui, tant par le nombre d'Africains ou de ressortissants africains qu'elle reçoit chez elle et par les situations qui se passent sur le continent, si en étant responsable, la seule réponse que la France trouve, c'est de dire qu'on ne va plus donner de visa aux Nigériens, aux Maliens, aux Burkinabés, je pense que c'est trop réducteur de l'État français qu'on admire, de la grande France, de cette grande puissance-là. Vous imaginez que les États-Unis vont dire qu'ils ne vont pas donner de visa aux Chinois ou aux Coréens parce que ils ont des difficultés avec ces États-là. C'est tombé trop bas en matière diplomatique. Je pense que la France gagne. La France est un grand État et qui peut continuer à l'être en évitant de tomber dans ces petites bassesses.
Merci. Mais élément important, le Niger a demandé, vient d'obtenir le départ des troupes françaises. Mais il y a également les États-Unis d'Amérique qui ont un contingent de militaires au Niger et que les autorités nigériennes n'en parlent pas. Ça veut dire que c'est plutôt c'est tout ça là, c'est la conséquence de la politique de l'un ou l'autre pays au Niger. Oui, Kakwala.
Moi, au-delà de tout, je salue juste la stratégie de la procédure adoptée par les militaires nigériens dans cette crise. Vous savez, quand on donne un ultimatum à quelqu'un, lorsque l'ultimatum expire, on passe par la force.
On passe à l'action.
Vous voyez, depuis qu'on a donné l'ultimatum à l'ambassadeur de France au Niger de quitter, l'ultimatum a expiré, mais le Niger n'a pas procédé par la force. Ça veut dire que quand même, quelque part, et ils réfléchissent beaucoup, ils adoptent plus l'humanisme que la force. Ça aurait été la France qui aurait donné l'ultimatum à l'ambassadeur plutôt du Niger en France. L'ultimatum expire, ils vont l'évacuer par force. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il faut saluer quand même cet état d'esprit qui permet quand même d'aller d'une façon pacifique et trouver des solutions.
Merci. Nous allons terminer par deux sujets, pas petits, mais plutôt importants. Il faut faire mieux. La semaine passée, le confrère chronique de la semaine, dans sa parution du jeudi, écrivait « Dossier, persistance du mauvais accueil dans les services publics et privés au Togo, que faire ?» L'article parlait de la recrudescence des erreurs administratives et du mauvais accueil que subissent les clients et les usagers des entreprises et services publics et privés. Dans nos institutions publiques ou privées, du vendeur du beignet au bord de la route jusqu'au personnel de la présidence de la République, il y a mauvais service administratif, il y a mauvais accueil. Je ne sais pas si c'est ceci qui a inspiré cela, mais je lis à la page 4 de Méga Info que à la SAFER, on a initié depuis quelques semaines des formations à l'endroit du personnel et c'est pour renforcer les capacités des agents de la SAFER sur deux thématiques. Améliorer significativement les performances en matière de communication relationnelle avec les usagers de la route qui sont les principaux partenaires de la SAFER, mais également apprendre au personnel de la SAFER à savoir se contenter de son salaire et à mieux le gérer.
Vous avez tout développé. Vous voyez, la SAFER, c'est un service public, comme tout autre. Ce n'est pas un service, ce n'est pas une entreprise privée. C'est une entreprise qui appartient à tous les Togolais. Et comme tel, Vous avez vu ce que notre confrère de chronique de la semaine a écrit. Dans beaucoup de services, on ne va pas dire quand même à 100% au Togo, il y a le mauvais accueil. Donc, je pense que la SAFER a pris conscience de cela et d'une façon périodique, elle passe au renforcement des capacités de ses agents au poste de péage et pesage afin qu'il améliore le personnel, donc l'accueil vis-à-vis des usagers de la route. L'usager de la route, c'est lui qui vient payer les droits d'usage pour permettre l'entretien de l'ensemble du réseau routier. Et il faudrait que les agents expriment vraiment de la courtoisie, du respect vis-à-vis de cela. Et en second module, comme vous l'avez si bien dit, se contenter de son salaire, ils ont reçu aussi beaucoup d'éléments pour mieux gérer leur salaire, pour éviter de tomber dans la tentation. Nous invitons d'autres. La tentation de mettre la main sur ce qui ne t'appartient pas.
Merci, tu as tout dit.
Voilà.
Et surtout, ce que je note, c'est que la SAFER a dépêché ses renseignements auprès des agents sur poste à Pogno, à Mango, à Kachamba, à Défalé, à Ketou, à Kemerida, à Léride, à Sotoubois, à Djeréoué, avant de descendre progressivement vers Lomé. Ce que la SAFER fait peut inspirer beaucoup de services publics et privés que Chronique de la Semaine a mentionné. On termine avec le CONAP. Nouvelle opinion, on le rappelle, à la page 4. Germain Pouli, élu nouveau président du CONAP. Et Méga Info, on le rappelle aussi. Germain Pouli qui devient le quatrième président du CONAP après Jacques Djakouti, après Jean-Paul Agbo et après surtout un certain Tchanyao Arimiao à nos côtés ici. Arimiao?
Oui, Jean-Paul. Si Jean-Paul Agbo, Djakouti, c'était mes prédécesseurs. Et s'il y a quelqu'un.
Et toi aussi, tu viens d'avoir un successeur.
Oui, je viens d'avoir un successeur. Et s'il y a quelqu'un qui peut s'estimer très heureux, aujourd'hui, c'est moi. Je me sens très heureux parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans le cadre de l'organisation de la dernière AG. Mais à la fin, j'ai vu que les membres du Conseil national des patrons de presse, c'est des gens qui ont une hauteur. C'est des gens qui aiment vraiment le Conseil national des patrons. Et cela s'explique par la mobilisation que nous avons connue samedi dernier, de Dapaon jusqu'à Anéko. Tous les membres ont fait violence sur eux, malgré les difficultés, malgré la rentrée qui s'annonce pour reprendre présent à cette Assemblée Générale.
J'ai appris qu'il y avait 95 patrons de presse à cette Assemblée Générale.
Sur les
102 participants, 95 votants.
102
présents,
95
sur les 138 que nous sommes aujourd'hui, je crois que, ma foi, je devais me sentir très heureux. Et aujourd'hui, l'essentiel a été fait. Moi, je crois que la direction des organisations comme le CONAP, c'est comme un film, c'est comme une pièce de théâtre. Et vous avez parlé du premier président, Jacques Djakouti, que je respecte et salue en passant, du deuxième, Jean-Paul Agbo, que je respecte et salue en passant. Et moi-même, je ne peux pas danser et m'apprécier.
Eh bien, laisse-nous t'apprécier.
M'apprécier.
Et surtout, nous attendons le nouveau président du CONAP dans les jours à venir pour revenir là-dessus. Oui, aussi bien sûr le CONAP que sur ces mauvaises habitudes qu'il faut corriger dans le service public et privé. Kondjovi et Kwami, une minute à chacun avant la pause.
Ok, je crois que je profite de l'occasion pour saluer le nouveau.
Tu as une minute, hein?
Oui, bien sûr. Pour saluer la venue de notre cher ami Germain Pouli à la tête du CONAP et saluer aussi toute son équipe. Mais je tiens quand même à revenir sur le mauvais accueil qui accourt dans les services, surtout dans nos hôpitaux et aussi parfois dans les mairies. Dans les mairies ou surtout dans certaines mairies où on exige le paiement. Si vous voyez, vous amenez un courrier pour déposer, on va vous dire de payer un timbre de 500 avant que le courrier ne soit réceptionné.
C'est un courrier?
Oui, simple courrier. Vous envoyez à des maires, on vous dit de, vous devez payer un timbre de 500. Cela court dans cette mairie.
Si je veux,
c'est ça. Avant que, bien sûr, absolument.
Mais je dois payer.
Oui, dans certaines mairies, il y a ça qui est
en cours.
Bien sûr que oui. C'est ça, bien sûr. À Lomé ici, surtout à Lomé. Donc, c'est des pratiques qu'il faut corriger. Et maintenant, pour chuter envers notre société SAFER, je crois qu'il ne lui appartient pas seulement de collecter les fonds, mais il faudrait que des comptes soient rendus à la population à chaque fin d'exercice. Il faudrait que chaque année, cette société fasse une conférence publique pour dire telle année, j'ai mobilisé tel nombre de 2 milliards, 2 millions pour le Togo.
Ça s'appelle c'est réédition ça. De comptes
absolument.
Et sur, dans la gestion.
C'est ça. Merci surtout au niveau de ce qui est le nouveau péage installé à Couvé. En allant vers Tablebo, à cette époque, je crois que...
Là-bas seulement, il faut faire le compte.
Non, pas seulement ça. Non, pas seulement. C'est au niveau de tous les péages, je dis.
Non, mais c'est important. Hein. La reddition des comptes, la transparence dans la gestion de la SAFEP, ça ne fera qu'augmenter l'aura.
Si je parle de cette époque, c'est que nous on subit doublement les péages. Ceux qui vont à Tablebo subissent doublement les péages.
Ou bien sur les mauvais comportements à corriger.
Sur le CONAP, je voudrais d'abord dire félicitations à tous les présidents, le sortant comme l'entrant. L'entrant. Le nouveau président, ce fut mon patron et c'est mon patron. Et le sortant, c'est mon neveu et mon grand frère. Et donc, félicitations au CONAP. Malheureusement, samedi, j'avais quelques petits soucis de santé. Je n'ai pas pu me déplacer, mais j'ai dû envoyer quelqu'un là-bas. Mais on m'a rapporté que tout s'est bien passé dans la convivialité. C'est ce qui compte. C'est la presse togolaise qui gagne au-delà de tout. Et donc, nous allons juste souhaiter que la nouvelle équipe dont fait partie Kakbala travaille pour l'intérêt de la presse togolaise. Mieux que ce qui a été fait. C'est ce que nous souhaitons. Et pour le mauvais accueil, je pense fondamentalement que le ministre Barra avait déjà parlé d'un tel sujet dans l'administration publique, dans l'enseignement, un peu partout, dans les hôpitaux. Je crois que c'est un problème général. C'est pas seulement au niveau de SAFER et autres. C'est un problème qu'on devrait prendre à bras le corps au niveau de chez nous.
La chronique dit que jusqu'à la présidente de la République, c'est une mauvaise pratique en cours.
Oui, donc je pense que le mauvais accueil dans l'administration publique, un peu partout, à tous les niveaux, est symptomatique donc du secteur que nous avons.
Merci.
Aujourd'hui.
Il est midi, passé de 3 minutes. Les techniciens nous font signe qu'il y a urgence de suspendre nos débats et d'aller au spot publicitaire et puis venir surtout aux auditeurs qui commencent déjà par envahir le standard, le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75, c'est dans un petit instant.
93.5.
À présent, la parole est à vous sur les deux numéros, le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75. Vous nous avez écouté sur les divers sujets, les relations Afrique-France, je ne t'aime plus, l'année scolaire 2023-2024, compassion, solidarité à l'endroit des victimes de l'incendie de Sémé-Krake au Bénin, et puis le CONAP qui vient d'avoir un nouveau bureau et les mauvaises habitudes qu'il faut corriger dans les services publics et privés. Premier auditeur en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, grand frère Gao, bonjour le plateau. Je me nomme Benoît, le caméléon, je vous appelle Dagoué.
Benoît Dagoué, oui.
Bon, moi, j'aimerais dire à propos de la France et avec le Niger. Le président, l'ex-président Gabonou Mbongo avait crié et fait du bruit. L'ambassadeur, c'est moi qui analyse comme ça, l'ambassadeur et de France au Niger, créé j'ai faim. Donc, je voulais dire que le président français Emmanuel Macron, il s'est fait avoir. Je me demande, est-ce qu'il a des conseillers?
Mais sûrement, il doit en avoir.
Le fait que, vous savez, c'est pas le diplôme. Vous voyez, j'aime beaucoup le président russe, Vladimir Poutine. Il parle peu, il agit. C'est ça. C'est le tonneau vide qui font du bruit. Il faut agir. Donc, maintenant, il dit que l'ambassadeur va partir. Donc, ça va revenir. J'interpelle à nos dirigeants au Togo de mettre bas la terre.
Merci. Merci beaucoup, Benoît Dagoué. Il y a beaucoup de personnes qui piétinent au standard. Le deuxième, bonjour.
Oui, monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Je souhaite une bonne rentrée à tous nos enfants, nos petits frères.
Merci.
Et puis je suis d'accord avec Kokoroko qui parle enfin de bâton.
Il manie aussi bien la carotte que le bâton.
Voilà. Mmh. Au moins, il y aura un peu de bâton parce que ces enfants...
Attends. Ce qu'il dit, c'est pas taper les enfants à l'école. Hein. Ce qu'il dit, c'est la rigueur.
Voilà. Hein,
dans l'application de la discipline, mais également féliciter ceux qui font bien, les encourager.
D'accord. Mmh. Là, j'ai compris en partie.
Merci beaucoup.
Bon, et puis, pour Macron, on dit souvent, le ridicule ne tue pas. Mais le ridicule, quand ça vous ridiculise, c'est plus que vous tuez. Mmh.
Donc, c'est pour dire que le ridicule tue.
Ah, mais oui.
Merci beaucoup. Sylvain Agbahi, le troisième auditeur en ligne, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Oui, c'est monsieur?
C'est monsieur Worou.
Worou?
Oui.
Ok, vous nous appelez d'où?
J'appelle de Toti.
Ok, nous écoutons.
Et je salue le plateau.
Merci.
Oui, c'est concernant les services que les Togolais nous offrent.
Oui.
Oui, j'ai un souci au niveau du Togocom.
Togocom?
Oui, Togocom.
Mm-hmm.
Et ça fait de cela 2 semaines. Je vous jure, monsieur Sass, c'est pitoyable pour le Togo.
C'est quoi le service que vous demandez et que vous n'obtenez pas?
Le numéro de ma fille a perdu avec le portable.
Mm-hmm.
Je suis allé pour récupérer le numéro. J'ai payé. Et le numéro ne fonctionne pas. Je suis retourné. Les agents m'ont dit de racheter un crédit de 2000. Je l'ai fait. Le numéro ne fonctionne pas. Jusqu'au lundi, j'ai rappelé le service Togocom. Ils m'ont dit de se patienter. Je me suis patienté le lundi, le mardi, Neva, mercredi, Neva. Jeudi, il ne me faut que répéter les mêmes choses.
Mm-hmm.
Jusqu'aux 2 semaines. Monsieur Sass, je suis dépassé, je suis débordé. Et voilà le numéro que j'ai récupéré, ça ne travaille pas. Le crédit de 2000 fois que j'ai payé, ça ne passe pas. Et il ne faut que ça réussisse sur le dos de la population. Hein? Je suis obligé d'aller acheter un autre numéro pour ma fille.
Merci,
et voilà que les 2000 et le numéro que j'ai pris sont partis pouce-pouce.
Je présume que le club de la presse compte des auditeurs dans les locaux de Togocom. Si quelqu'un a écouté, rendre compte au directeur général de Togocom. Ce serait bien pour sa gestion. Quatrième auditeur, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Bonjour, monsieur. Bonjour, le plateau.
Bonjour, c'est monsieur.
Dogbe de Pierre Didogom.
Dogbe de Pierre Didogom. Nous vous écoutons.
Je salue le nouveau directeur, le nouveau président du CONAF.
Il sera là dans quelques jours.
C'est à propos du mauvais accueil dans les services publics.
Mm-hmm. Public et privé.
Oui. Mm-hmm. Bon. Pour privé, là, c'est un pas si trop, mais pour le public, au niveau même de l'hôpital. Ce matin, j'étais là où on fait les visites techniques de la facture, là.
Mm-hmm.
Et je me suis trompé de caisse. La dame était sur son portable, je lui demandais là où je devais aller. C'est que j'étais mal accueilli. Et puis, elle ne m'a même pas parlé, elle m'a montré par la main gauche. Elle n'a pas parlé, elle a montré seulement la main. J'ai dit, madame, je me suis présenté devant vous, je vous ai salué. Et c'est l'accueil que vous me réservez. Il n'y a pas de travail au Togo. Ceux qui en ont, n'ont qu'à bien protéger ça. Merci pour l'émission.
Je vous en prie, l'ami Dogbe, depuis Adido Gomé. Le suivant, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Oui.
Bonjour, tout le plateau.
Tout le monde vous salue, papa Sibidi.
Merci beaucoup. Mon nom là, quand vous êtes soucieux, ce n'est pas encore fait, que le président pense à nous.
Ah, votre inondation là-bas, ce n'est pas encore corrigé.
Oui, le collecteur.
Et vous pouvez demander audience à aller voir Mme Kassa Traoré, c'est possible, hein?
Oh, elle entend.
Non, non, c'est encore mieux, c'est encore mieux si vous pouvez demander une audience.
Vous parlez de conseillers, elles ont des conseillers, tout ça là. Et moi, je ne peux pas vous dire les liens qui nous unissent entre Mme Kassa et moi. Mm-hmm. Moi, je souhaite qu'elle reste notre ministre. Si elle ne veut pas s'occuper de moi, ça fait son affaire. Maintenant, c'est pour la rentrée scolaire que je voudrais intervenir. Le ministre Kokoroko, il fait que cette rentrée soit pénible comme l'année dernière. Les enseignants n'ont qu'à être conscients. Les parents des élèves n'ont qu'à être conscients. Mettre 4 enfants sur un demi-jean, qu'ils nous voient ça, le ministre de la Sécurité. Vraiment, il faut que tout aille bien. Maintenant, monsieur Tassé, les femmes-là, comme quelqu'un venait de dire, les WhatsApp-là, c'est devenu leur travail au bureau. Est-ce qu'on ne peut pas leur interdire?
Mm-hmm.
Vous voyez des gens même qui conduisent les motos dans les grandes rues, lisant les choses. Les fonctionnaires là, que le président, le ministre de la fonction publique, ils n'ont qu'à sévir. Merci beaucoup.
Je vous en prie, hein, la problématique de l'utilisation du téléphone, notamment WhatsApp, pour les agents qui sont au front office dans différents services. Est-ce qu'on ne peut pas regarder cela? Et puis, il y a un auditeur qui dit, au-delà du mauvais accueil, il y a des phénomènes de règlement de compte dans les administrations quand on change de ministre ou bien de directeur. Merci pour vos différentes réactions. Le suivant, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est monsieur Jean.
Jean, vous nous appelez de?
Tati.
Pardon?
De Tati.
Oh, ok.
Juste pour demander d'après votre confrère Dimas Dikodo,
Il
est là quand même.
Il est là physiquement, mais c'est vrai que son journal Forum de la Semaine ne paraît plus. Lui-même n'intervient plus dans les débats, dans les émissions. Ce qui, personnellement pour moi, est un grand manque à gagner pour la valeur, la quintessence de nos débats et émissions. Mais j'espère que Dimas, depuis là où il est, qui nous écoute. Merci à vous, Jean, de vous souvenir de lui. Le suivant, bonjour.
Sasa, alléluia.
Oui, l'évangéliste Senghor.
Comment vous allez?
Nous rendons grâce à Dieu.
Et nous prions que nos enfants bien repris vont bien terminer.
Espérons bien.
Bon, Sasa, moi je n'ai rien aujourd'hui à dire ou... demander aux Togolais vraiment de prendre patience.
Ça, le Togolais est patient, hein, M. Senghor.
De doubler la patience.
Nous sommes même trop patients des fois.
Ouais, mais des fois aussi il y a le découragement, mais je les prierai quand même d'avoir la foi en Jésus. Pourquoi je dis ça? Les gens meurent. La mort, maintenant, elle est fatale. À cause de stress, des problèmes. L'autre fois, il y avait quelqu'un, une dame qui est morte à cause de 2000. Je prierai vraiment à ceux qui ont des moyens, et dans les quartiers, partout, dans les familles. On sait que ça ne va pas au Togo. Vous savez, notre situation dépasse le Niger, hein. La situation du pays, là, du Togo, là. Ça dépasse vraiment le Niger.
Sur quel plan?
Je voudrais dire que tout le monde revient à Jésus. Franchement, c'est lui seul qui a la solution.
L'ami Senghor, s'il vous plaît, nous sommes dans une émission laïque. Nous ne voudrions pas que ce soit l'occasion d'évangéliser dans un sens, dans un autre. Nous parlons des problèmes communs à tout le monde, s'il vous plaît, monsieur Senghor.
Il faut que nos dirigeants aussi fassent attention. Parce que vous voyez, il n'y a rien d'inquiet dans ce monde. Hein. Chaque fois, son temps, tous ceux qui ont ramassé l'argent, ils ont déposé, ils ne veulent rien faire avec l'argent.
Là, je suis d'accord avec vous.
Même de faire les deux.
Mm-hmm. Merci beaucoup. Là, je suis d'accord. Les problèmes sociaux, nous en parlons. Hein. Et le tout dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Oui, c'est monsieur Garou.
Monsieur Garou.
Oui.
Oui.
Moi, j'avais demandé au chef de l'État d'amitier tous ceux qui ont de l'argent ou qui ont pris de l'argent de venir investir. Quand on poursuit du bien, et jusqu'à présent, on ne voit rien. Il a des riches. Il y a plusieurs jondos cachés. C'est pas normal. Pour terminer, le blanc, le corps a capitulé des gens, les Aoussa. Merci, bonne journée.
Je vous en prie. L'ami Garo.
Oui.
Est-ce que vous-même, vous ne seriez pas peut-être un milliardaire caché quelque part?
Oh, si je suis milliardaire, vous allez le connaître, je vais vous envoyer au moins 100 francs chaque jour.
Merci beaucoup. Eh bien, chers amis, Kakpala, Kojovi, Komi, Arim Yaou, vous avez écouté les auditeurs. Une minute à chacun pour une réaction. Qui prend d'abord? Qui prend? Kojovi?
Ok, merci Sass.
J'ai une minute, hein.
Ok, il n'y a pas de souci. Je crois que le problème de moyens financiers et que l'ami, l'avant-dernier auditeur a évoqué, je crois que c'est un problème réel dans nos pays où les gens ont des moyens, mais qui ne veulent pas mettre à profit de leurs concitoyens. Ça, c'est
un grand défi. Chacun utilise son patrimoine comme il entend.
Au fait, non. Ce que je veux bien signifier,
oui.
Ça part d'abord de nos ressources qui sont communes à nous tous, les biens de l'État.
Tu parles des biens publics.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça part de là. La gestion qui n'est pas aussi orthodoxe qu'on le voudrait, ce qui fait que c'est une minorité qui profite des mannes du pays. Et ça crée beaucoup de désespoir, d'indignation au sein de la population, de frustration.
Ouais.
C'est ça qui est criant. Aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, nous évoquons à peine sur les 15 banques que nous avons, il y a 13 qui sont privatisées, 13 ou bien 14 qui sont privatisées et une seule qui est en cours.
Et pour laquelle on cherche aussi preneur.
C'est ça. C'est dommage pour nos pays. On ne peut pas. L'argent. C'est le soubassement de l'économie du
donc
pays.
Tu reviens mais sur non, la gestion ça, même des biens nationaux.
C'est ça qui crée des frustrations. Et si ces frustrations sont accumulées, arrivées à un certain niveau, ça crée le débordement.
Merci. Tu as la parole, tu la gardes pour un carton de fin d'émission de début de semaine.
Bon, pour le carton, bon, peut-être je vais plutôt profiter pour donner une information.
Okay.
Primeur, c'est que la situation qui met aux prises les deux camps au niveau du comité d'action pour le renouveau,
ouais.
Là, cette situation a été débattue, a fait l'objet d'une sentence ce matin au niveau du tribunal.
À la justice.
Ouais. Donc, le juge des référés qui a été saisi de ce dossier s'est désengagé.
Mm-hmm.
Et donc, le processus doit encore reprendre son cours.
À quel niveau?
Bon, au niveau supérieur.
Donc, le juge s'est déclaré incompétent en la matière.
En la matière.
Okay.
Donc, le feuilleton continue.
Le feuilleton continue, nous suivrons cela. Comme Didier.
Non, c'est de dire déjà bonne rentrée déjà à nos enfants, à nos frères, à nos soeurs et aussi à nos amis enseignants. Nos amis enseignants, on sait de quoi il s'agit. Jean-Baptiste est passé par là, vous-même. Uriel aussi, moi un peu, mais pas à ce niveau-là, mais bon, bonne chose quand même, bien de choses quand même pour une meilleure année. Pour les parents aussi, parce que chaque fois nous serons obligés d'aller déposer les petits, les enfants, aller les reprendre après. Donc je pense fondamentalement que tout ce que nous pouvons, chacun à son niveau, apporter pour que le système soit mieux huilé pour la réussite de nos enfants, nous devons apporter nos contributions. Et déjà, pour le reste, je dis bonne semaine à tous.
Merci. Alors, pour les enfants, Papa Sibiti a évoqué quelque chose maintenant que j'ai vu ce matin. Hein, encore 3, 4 enfants sur une même moto. Hein? 3, 4 enfants qu'on prend sur une même moto pour aller à l'école.
Non, on va prier que les parents aient un peu de moyens pour s'acheter.
Mais si jamais il survenait un accident. Merci. Kakpala,
je reste aussi dans l'atmosphère de la rentrée scolaire pour rendre hommage à tous ceux qui ont eu des parents comme les miens, qui n'étaient pas allés à l'école, mais qui ont eu cette volonté, cette vocation de nous laisser aller à l'école et fréquenter. C'est aujourd'hui que je réalise ce que c'est. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est allé à l'école, mais difficilement, nous arrivons à maîtriser nos enfants pour les scolariser, pour les aider à avancer. Mais nos parents, qui n'y étaient pas, mais ils nous ont laissé la liberté. Chaque matin, ils te réveillent, ils te disent, pars à l'école, tu reviens, ils te disent ce qu'il faut faire. Mais je rends hommage à tous ces parents-là, hein, qui n'étaient pas allés à l'école, comme les miens. Mais qui ont eu cette volonté
Nos parents, ils avaient une certaine autorité parentale et nous aujourd'hui
on a perdu.
Évoluer que nous prétendons, il y a un problème. Quelle autorité avons-nous encore sur nos enfants aujourd'hui, à l'heure de la télévision, à l'heure des réseaux sociaux?
C'est ça.
Tu as fini?
J'ai fini.
Merci. Ari Niaou, tu as Niaou?
Non, surtout, je voudrais revenir sur l'école pour dire bonne chance à nos enfants, parce que c'est aujourd'hui la rentrée, mais c'est en même temps la fin de l'année, les examens, donc bonne chance à tous. Comme ils ont commencé, il y aura une fin. Et revenir dire aussi que vous avez évoqué le mauvais accueil dans nos administrations. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le chef de l'État, que les gens ne le perdent pas de vue. Le chef de l'État veut un Togo uni. Un Togo où les gens ne frustrent pas les autres parce qu'ils ont peut-être la possibilité de le faire. Et pour dire que nous savons également que dans les sociétés, dans les administrations, il y a des gens, quand ils ont le pouvoir, ils ont envie de régler des comptes, de faire des clans. Ce n'est pas bien pour le pays. Il faut que les gens aillent au-delà et qu'ils fassent que la cohésion règne partout, parce que c'est ce que le premier de nous tous veut. Et cela ne nous permet pas de nous développer très bien. Merci.
Merci. Je rappelle cette pensée du jour que nous avons tirée de Thomas Sankara, qui nous appelle à oser inventer l'avenir. Hein? Principalement l'endroit de nos élèves, mais pourquoi pas nous également au Club de la Presse et tous les journalistes, osons chaque jour inventer l'avenir. C'est fini pour aujourd'hui, mais le Club se retrouve demain, mardi, si Dieu le veut, et prions que Dieu le veuille. Mais encore une fois, continuez à célébrer la vie. C'est un bien unique.